Chapitre 13e, Ombai. Anthropophage, escamoteur, drame. Y a-t-il encore des anthropophages? C'est une question qu'on se fait tous les jours en Europe et qui est diversement résolue. Les uns disent que la civilisation, en pénétrant dans les lointains archipels où l'anthropophagie était dans les mœurs, a détruit cet usage barbare, tandis que d'autres, allant plus loin, ne craignent pas d'avancer. Il n'y a jamais eu de véritables anthropophages, c'est-à-dire des mangeurs d'hommes, sans y être contraints par la faim ou l'ardeur de la vengeance. Je craignais d'achever mon grand voyage sans document précis à ce sujet, et maintenant, grâce à ma bonne étoile, je puis hautement répondre « Oui, il y a encore des anthropophages ». L'anthropophagie, après la chaleur d'une bataille, alors que l'homme est violemment agité par la soif de la vengeance, existe toujours dans une partie des îles de l'océan Indien ou de la mer Pacifique. Elle se révèle souvent dans de terribles catastrophes, à Timor, à Waigiu, au Sandwich, à la Nouvelle-Hollande et surtout à la Nouvelle-Zélande, tant visitée par les navires, à deux pas du port Jackson, cité florissante et tout à fait européenne. Mais l'anthropophagie sans colère, sans fureur frénétique, sans haine, l'anthropophagie dans les mœurs, peut-être même dans la religion, je vous assure qu'elle existe au moins à Ombai, et je m'estime fort heureux qu'un autre à ma place ne vienne pas vous le certifier aujourd'hui en me citant au nombre des victimes qu'elle aurait faites. Qu'est-ce qui a donc sauvé quelques-uns de mes amis et moi des plus grands périls qu'un homme ait jamais couru? C'est notre gaieté. Un seul geste menaçant de notre part, un seul cri, un seul mouvement d'impatience, un seul regard d'inquiétude, et nous étions massacrés et nous étions dévorés. Ombai est une île grande et montagneuse, âpre, volcanique, pelée, excepté dans les ravins où les eaux tombant des hauteurs apportent un peu de fraîcheur et de vie. Les côtes de Timor, que nous avions longées avant d'arriver au détroit qui les sépare, se dessinent à l'œil sous les formes les plus bizarres et les plus sauvages. Dans l'éloignement et à travers un réseau de nuages fantastiques, se montrent les sommets aigus de l'Ifao. Koussi, Gulabatu, disparurent, et nous nous voyâmes enfin, drossés par les courants, en face de Batu Gede, sol si singulièrement taillé, qu'on dirait un amas immense de noir et gigantesque pain de sucre échelonné jusqu'à une hauteur de plus de 1200 mètres. Tous ces cônes réguliers et rapides sont à coup sûr d'anciens cratères de volcans. Les laves profondes ont envahi le rivage. Mais un soleil vertical nous brûlait de ses rayons les plus ardents. Nos matelots épuisés tombaient frappés à mort sous les coups d'une dysenterie horrible, et l'eau douce manquait, car depuis 24 heures, nous avions quitté Kupang, et c'était là, selon toutes nos prévisions, le plus long terme que nous avions assigné à notre traversée jusqu'à Waigiu. Le matin, une légère brise nous poussait insensiblement. Le calme de la nuit nous laissait dans un repos parfait, et le lendemain, grâce au courant, nous nous retrouvions en face des mornes silencieux que nous avions cru fuir pour toujours. Oh, c'est une vie bien triste que celle des hommes de mer, dont le courage et la persévérance échouent devant les puissants obstacles, que les vents et les calmes leur opposent obstinément. Et mille fois déjà, depuis notre départ, nous avions appelé de nos vœux les plus fervents les jours tumultueux des ouragans et des tempêtes. Cependant, l'équipage avait soif, mais là, à droite, Timor avec ses laves et ses galets roulés, ici, Ombai et ses naturels anthropophages. Nous le savions, et toutefois il fallait tenter une descente, car les besoins de tous voulaient que quelques-uns se dévoient seuls avec courage. Le commandant ordonna une expédition. Le grand canot fut mis à la mer, 10 matelots l'armèrent sous les ordres de Bérard. Godichaud, Guémard et moi, nous demandâmes et obtînmes la permission d'accompagner notre ami. Toutes les mesures prises pour les signes d'usage en cas de péril imminent, nous débordâmes et mîmes le cap sur un village bâti au flanc d'une montagne déchirée par de profondes rigoles. Cependant, nous approchions du rivage et notre cœur battait de désir et de crainte à la fois. Nous jugions du danger que nous allions courir par l'impassibilité peu flatteuse des naturels accroupis au pied d'un gigantesque multipliant. Et toutefois, sans nous décourager, nous cherchâmes de l'œil un mouillage et un débarcadère commode, mais en nous invitant mutuellement à la prudence. Les matelots attentifs nageaient avec moins de vigueur et nous faisaient remarquer la grande quantité d'armes dont chacun sut l'air était pour ainsi dire bardé. « L'affaire sera chaude, » disait Petit, en mâchant sa pincée de tabac. « Vous verrez que nous serons tous cuits et que lorsque nous l'écrirons à nos pères et mères, nous ne serons pas crus. » « Tais-toi, poltron, et reste à bord du grand canot, puisque tu as peur. »«
C'est ça, pour que la sauce ne manque pas aux poissons. Tenez, voilà un de ces gredins qui dérape de près de ses camarades. Je parie que c'est le plus goulu de la bande, et qu'il va me prendre pour un vrai rouget. »
Crie le coquin, s'il venait à bord, quelle danse.
« Allons, allons, paix, et veillons bien. » Deux hommes resteront dans le canot, prêts à donner un signal à la corvette. Les autres porteront les barils à terre et nous nous occuperons les naturels. Ils semblent délibérés. Ne leur donnons pas le temps de conclure et allons franchement à eux.
Oui, mais sans arrogance, nous dit Anderson, qui avait longtemps navigué dans l'archipel des Moluques.
Laissons-leur l'idée de leur force, cela pourrait les engager à la générosité. Je connais les Malais.
Si vous voulez leur persuader que vous ne les craignez pas, ils vous poignardent, ne fût-ce que pour vous prouver que vous avez tort.
Il serait donc sage de montrer qu'on a peur?
Peut-être.
Moi, répliqua le facétieux petit, je voudrais leur montrer autre chose, les talons.
Au large, dit Bérard, lorsque nous fûmes à quelques brasses, et mouille.
Nous grimpons à fond, nous descendons ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, et nous arrivons à terre.
Comme en présence des sauvages de la presqu'île Perron,
je voulus d'abord essayer la puissance de ma flûte.
Hélas, comme là-bas, mes doubles croches eurent tort et peu s'en fallut que je ne fusse sifflé par le premier ombayen accouru auprès de nous et par deux autres de ses camarades qui l'avaient rejoint.
Tous trois nous invitèrent à hisser le canot sur la plage, mais nous feignîmes de ne pas les comprendre et nous nous avançâmes, armés jusqu'aux dents, vers le groupe nombreux composé d'au moins 60 insulaires demeurés immobiles auprès de l'arbre. En route, j'essayai mes castagnettes. Les trois ombayens s'approchèrent de moi avec empressement, examinèrent l'instrument d'un œil curieux et me le demandèrent, comme pour payer ma bienvenue. C'eût été commencé trop tôt, nos générosités, je refusais, malgré les instants de prière qui m'étaient adressés et qui ressemblaient parfaitement à des menaces. Mes trois mécontents firent entendre des grognements sourds, agitèrent leurs bras avec violence, poussèrent un grand cri, firent retentir l'air d'un sifflement aigu et jetèrent un farouche regard sur les flèches nombreuses dont leur ceinture était garnie. Au sifflet des naturels répondit un sifflement pareil, parti du groupe principal, et Petit nous dit en ricanant « C'est la musique du bal qui se prépare. La contenance sera courte. C'est égal, n'y allons pas de main morte, messieurs, et tapons dur. » À peine avait-il achevé sa phrase, qu'un des trois rombiens s'approcha de moi en articulant quelques sons rapides et saccadés, et comme pour engager le combat, me porta sur le derrière de la tête un violent coup de poing qui fit tomber mon chapeau. J'allais faire sauter la cervelle à l'insolent agresseur. Je m'armais déjà de mes pistolets lorsqu'Anderson, témoin de la scène, me cria de loin « Si vous tirez, nous sommes morts !» Je compris, en effet, l'imminence du péril. Et sans écouter les prières ardentes de Petit qui me pressaient de riposter, je résolus de me montrer prudent jusqu'au bout en feignant de ne pas avoir compris la brutalité de l'attaque dont j'avais été l'objet. Aussi, m'approchant du chapeau qui était encore à terre, je le retournai avec le pied, le lançai en l'air et le fis retomber sur ma tête, ce que j'exécute, soit dit sans vanité, avec une adresse au moins égale à celle du jongleur le plus habile. À ce mouvement, mon adversaire, qui allait renouveler son agression, s'arrêta tout court, parla à ses camarades et tous trois me prièrent de recommencer. « Ne vous faites pas tirer l'oreille, » me cria Anderson. « Recommencez vite et tâchez de les amuser. Ne mettez-le au fond de l'eau. Retenons ici les insulaires. »«
À la bonne heure, » dis-je. « J'aime mieux escamoter que combattre. »
Je replaçai donc le chapeau une seconde fois sur le gazon. Je l'enlevai comme je l'avais déjà fait, et pour la seconde fois aussi, il tomba sur ma tête. J'obtins les bravos des insulaires qui me prirent par le bras et me conduisirent sous l'ombrage du multipliant avec les témoignages les moins équivoques de leur gaieté et de leur étonnement.
« Nous sommes sauvés, » poursuivit Anderson, « si le Raja s'amuse. Sinon, nous ne retournerons plus à la corvette. Vous n'ignorez pas que je comprends quelque peu le malais. Notre père t'est juré, ce vieil armin, de donner à ce sujet des ordres précis aux guerriers qui l'entourent.
« Eh bien, dis-je, amusons-les, ou du moins essayons. Il vaut mieux encore mourir en riant que de mourir la rage au cœur.
Vite, ma petite table, mes boules, mes anneaux, mes couteaux, mes boîtes et soyeux escamoteurs. Dans mes courses périlleuses, ces instruments sauveurs ne me quittaient jamais. Place, maintenant. » Petit, paillasse improvisé, traça un grand cercle, fit comprendre aux sauvages que j'étais un dieu ou un démon à volonté, les traita de butor, de ganache, s'agenouilla auprès de moi pour me servir de compère au besoin et s'écria de sa voix rauque
« Prenez vos places, messieurs et mesdames, il n'en coûte rien aux premières, mais aux secondes, c'est gratis. » C'est à coup sûr la première fois qu'on a osé, en présence d'une mort atroce et sans miséricorde, essayer de pareilles jongleries. Et cependant, cela seul pouvait nous sauver, cela seul était notre défense. Nous étions 6, que pouvions-nous contre une 60aine d'hommes farouches et cruels, sans compter ceux qui sans doute étaient cachés derrière les haies et les rochers voisins? Tous les yeux étaient tournés vers moi avec une curiosité stupide. Tous suivaient les mouvements de mes mains et le passage rapide des boules et des anneaux, le cou tendu, la bouche béante, poussant des exclamations de surprise qui, à la rigueur, auraient dû m'épouvanter. Car j'avais à craindre que, trop émerveillé de ma dextérité, ils ne voulussent à toute force me garder auprès d'eux au départ de mes amis. Mais je ne me laissais pas aller à ces terreurs passagères, et je continuais bravement mes curieux exercices. Les pauvres insulaires tombaient dans de véritables convulsions, et le paillasse petit cherchait à les imiter de la façon la plus amusante et la plus grotesque. Pendant ces jeux, Godichaud herborisait aux alentours, Guémard enrichissait son vocabulaire, Bérard donnait des ordres aux matelots, et les barils étaient roulés au canot. Aussi, tout allait bien jusque-là, mais nous n'étions pas pleinement satisfaits. Le premier pas une fois franchi, nous voulûmes pousser à bout nos imprudentes et curieuses investigations, et nous demandâmes la route du village que nous avions aperçu de la corvette. À cette question, on nous répondit « Pamati, c'est sacré. Raja, Pamali. Porampoam, des femmes, Pamali. » Il paraît que tout s'appelle Pamali dans ce pays de loups, disait Petit en riant jusqu'aux oreilles. C'est comme le godam des Anglais, ils ne savent pas dire autre chose. Parole d'honneur, on devrait les conserver dans un bocal, comme des objets Pamali. Toutefois, ayant remarqué que les hommages les plus empressés des insulaires s'adressaient toujours aux vieillards dont j'ai parlé, je répétais ma question, je demandai une seconde fois si ce n'était pas là le Raja, et seulement alors on me répondit que oui. Aussitôt, bien convaincu que je ne le trouverais pas inaccessible à la tentation, je lui montrai plusieurs bagatelles et curiosités européennes qu'il me demanda en effet. Je feignis d'abord d'y attacher un grand prix, mais je lui fis comprendre enfin que je n'avais rien à refuser à la haute protection qu'il m'accordait. Je m'accroupis donc à ses côtés, je suspendis à ses oreilles deux pendants de cuivre, je plaçai à son cou un grand collier en cailloux du Rhin, j'entourai ses poignets de deux bracelets assez proprement façonnés, et cela fait, je lui demandai la permission de l'embrasser en frère, ce à quoi il consentit en se faisant un peu prier. Face à face, il appuya fortement ses deux lourdes mains sur mes épaules, j'en fis autant de mon côté, puis, avec un sérieux toujours prêt à m'échapper, malgré le péril de notre position, j'approchai mon nez du sien avec assez de violence. Nous reniflâmes tous deux en même temps, et nous trouvâmes, liés d'une si parfaite amitié que peu s'en fallut, je crois, qu'il n'ordonna à l'instant même mon supplice, autant que je pus en juger d'après ses rapides paroles et des regards courroucés. Mais là ne s'arrêtèrent pas les effets de ma générosité forcée. Le petit sac contenant mes trésors, évalué à 8 ou 10 francs, était un objet de convoitise pour les autres insulaires, qui tournaient tous la main et aspiraient aussi à l'honneur de renifler contre mon nez. Leurs importunités devinrent si menaçantes qu'il n'y eut plus moyen de refuser. D'abord, au plus grand, car on est considéré ici qu'en raison de la haute stature, je donnai une paire de ciseaux, à un autre des mouchoirs, à un troisième un miroir et des clous, à un quatrième des hameçons. Le sac fut bientôt vide et cependant, les quêteurs insistaient encore. J'étais ballotté de l'un à l'autre, en me faisant tourner comme une toupie. Les gestes devenaient violents. Mes vêtements lambeaux commençaient à leur appartenir et ma foi, j'allais peut-être user de mes armes quand le Raja s'approcha, traça du bout de son arc un grand cercle autour de moi et prononça d'une voix forte le mot sacramentel « Pamali ». Au même instant, les naturels bondirent comme frappés par une commotion électrique et je me trouvai seul dans le lieu saint. Il était temps, car je respirais à peine et mes camarades se disposaient à une attaque générale. Après une courte mercuriale du Raja, les Ombayens parurent se calmer, et malgré leur volonté bien arrêtée, nous résolûmes d'aller visiter le village appelé Bitoka. Là était l'imprudence, puisque tous les barils, pleins d'une eau excellente, se trouvaient arrimés déjà dans le grand canot, et que des amorces parties de navires nous invitaient à la retraite. Mais dans ces périlleuses excursions, la curiosité est si vivement excitée par tout ce que vous voyez que c'est surtout ce que l'on vous cache que vous tenez le plus à savoir. Un ancien eut beau nous inviter à la retraite, ses paroles n'eurent pas plus de puissance que les menaces des Ombayens, et nous nous mîmes à gravir la montagne par un sentier difficile et rocailleux, en dépit des naturels qui, évidemment, pour nous égarer, nous en montraient un autre plus large et plus uni.
Marchant côte à côte et toujours en alerte, nous vîmes bientôt sur nos têtes les cases de Bitoka, bâties sur pilotis, élevées de 3 à 4 pieds au-dessus du sol, bien construites, séparées les unes des autres et au nombre d'une quarantaine. Plusieurs insulaires nous avaient suivis et précédés au village. Là surtout leurs demandes devinrent importunées et pressantes. Là surtout les menaces retentirent avec éclat. En dépit de mes jongleries, qui les étonnaient toujours, mais ne les calmaient plus. Et tandis que nous disposions leur faveur de nos petits trésors, ils nous donnaient parfois en échange des arcs et des flèches. Guémard, qui avait pour habitude de se faufiler dans les plus petits recoins, vint nous dire qu'il avait vu, suspendu au mur d'une case voisine, sans doute de Rouma Pamali de Bitoka, une quinzaine de mâchoires sanglantes. En effet, je m'y rendis à l'instant même, comme pour regagner le rivage, et je ne pus faire qu'une courte halte devant ces hideux trophées sur lesquels nous n'osions interroger personne. Au milieu de l'agitation que causait une pareille découverte, une fusée, partie du bord afin de nous rappeler, éclata dans l'air. À ce signal, qu'ils regardèrent comme un prélude de guerre, les Ombayens se divisèrent en plusieurs groupes, s'interrogèrent et se répondirent les deux sifflets aigus et perçants, s'échelonnèrent sur la route que nous avions à parcourir, s'armèrent de leurs arcs, garnirent leurs larges poitrines d'un grand nombre de flèches acérées, que la plupart d'entre eux trempaient dans un tube de bambou rempli d'une eau jaunâtre et gluante, et semblaient attendre un dernier signal de leur Raja pour nous massacrer. Ici commença le drame. « Nous voilà donc flambés, » dit Petit qui voulait déjà dégainer. « Faut-il couper des flûtes ou des têtes ?»« Il faut te taire et nous suivre, » lui dis-je. « C'est égal, je m'abonnerai volontiers à deux flèches dans les hanches. Et moi aussi, et moi aussi. » Mais il n'était pas probable que nous en fussions quittes à si bon compte, et nous pensions involontairement aux mâchoires suspendues dans le Rouma Pamali. Cependant, nous faisions toujours bonne contenance, et je poussais même l'attention jusqu'à montrer aux insulaires qui m'entouraient les secrets d'une partie de mes tours afin de les distraire de leur férocité. Je leur avais déjà donné, ainsi que mes camarades l'avaient fait, une veste, une chemise de matelot, une cravate, un mouchoir, un gilet. Et à très peu de choses près, j'étais vêtu comme eux. La rapine étant le premier besoin de ces peuples farouches, nous pensions que dès qu'ils n'auraient plus rien à nous demander, ils se montreraient moins cruels. Mais ce n'était pas assez pour eux. Il leur fallut des promesses, et en effet, je leur fis entendre que le lendemain, au lever du soleil, nous reviendrions leur apporter de nouveaux et de plus précieux présents. Ils nous attendent toujours. Toutefois, comme nous craignions encore qu'ils ne nous demandassent des otages en garantie de notre parole, je dis à Bérard qu'il serait peut-être sage de les épouvanter à l'aide de nos armes à feu. « Essayons toujours, » répondit-il, « ce moyen peut se tenter. Peut-être ignore-t-il la puissance de la poudre et des fusils. » Un perroquet poussait son cri perçant dans les larges feuilles d'un rima. « Bourrou, oiseau, » dis-je au plus irrité des malais en le lui montrant du doigt. « Bourrou, Mati, tué. » Bérard, dont le coup d'œil était presque infaillible, visa. Le coup parti, l'oiseau tomba. Nous regardâmes, triomphants, les insulaires attentifs. Pas un n'avait bougé, pas un ne semblait étonné le moins du monde. Mais celui à qui j'avais d'abord adressé la parole, me prenant rudement par le bras, me montra une perruche qui venait de se poser dans les branches flexibles d'un cocotier. « Bourrou !» me dit-il à son tour. « Bourrou, Mati !» Il posa la flèche sur la corde de son arc, poussa un cri, fit entendre un brrr éclatant qui effraya l'oiseau. Celui-ci prit la volée, la flèche siffla, et la perruche tomba de branche en branche sur le sol. Aussitôt, sans nous donner le temps de la réflexion, en nous faisant bien comprendre que pendant que nous chargions nos fusils, il pouvait, lui, atteindre 30 victimes, le même insulaire nous montra un petit arbre dont le tronc n'était pas plus court que le bras et à plus de 50 pas de distance, sans presque viser. « Miri, miri, regardez !» nous dit-il, et la flèche partit, pénétra profondément dans l'arbre, et nous ne pûmes l'en arracher sans y laisser l'os dentelé dont elle était armée. « C'en est fait, » dit tout bas Anderson, « nous sommes perdus. »« Pas encore, » répliquai-je. « Je vais leur donner mes boîtes à double fond. Escamotons leur fureur comme nous avons escamoté les muscades. Vous, mes amis, donnez tous vos vêtements. » Ainsi fut fait. Mais nous approchons du rivage, et quoique la nuit commençait à tomber du haut des arbres, je m'arrêtai encore pour dessiner un trophée d'armes admirable suspendu aux branches d'un petit pandanus. Plus complaisant que je ne l'aurais imaginé, un Ombayen se revêtit et se posa audacieusement devant moi en modèle d'atelier. Ici, nouveau frottement de nez en remerciement de sa courtoisie, mais lui, enchanté de se voir reproduire sur le papier, voulut me donner un spectacle plus curieux et plus dramatique. Il s'adressa à un des siens, qui s'arma de son redoutable cric, et les voilà tous deux, se menaçant du regard et de la voix, se courbant, se redressant, bondissant comme des panthères affamées, se cachant derrière un tronc d'arbre, se montrant plus terribles, plus acharnés. Puis, faisant tournoyer leurs glaives, se couvrant de leurs boucliers de buffles, ils s'attaquèrent de près avec des hurlements frénétiques, vomissant une écume blanche au milieu des plus énergiques imprécations, et ne s'arrêtèrent que lorsque l'un des deux athlètes eut mordu la poussière. Cette scène terrible dura plus d'un quart d'heure, pendant lequel nous respirions à peine. Oh, jamais plus chaud et plus effrayant épisode n'arrêta voyageur dans ses imprudentes excursions. Ce n'était pas un jeu, un spectacle frivole offert à notre curiosité. C'était un drame complet, avec ses craintes, ses douleurs, ses angoisses et son délire. C'était un combat à outrance, comme un vœu des adversaires à qui il importe fort peu de vivre pourvu qu'il tue. Une sueur ardente ruisselait sur les flancs des deux jouteurs, leurs lèvres tremblaient, leurs narines étaient ouvertes et leurs prunelles fauves lançaient des éclairs. Dans la chaleur de l'action, l'un des deux avait reçu à la cuisse une assez forte entaille d'où le sang s'échappait en abondance et l'intrépide ombayen n'avait pas seulement l'air de s'en apercevoir. De pareils hommes ne doivent pas connaître la douleur. J'ai dit à peu près la scène, mais ces cris farouches au milieu de la lutte, cette joie de tigre au moment du triomphe que chacun des deux combattants exprimait tour à tour, ses yeux fauves, ses mouvements rapides de glaive acéré qui feint de trancher une tête, et cette avidité du vainqueur à boire le sang dans le crâne, à mâcher les membres du mort, exprimés par une pantomime infernale, quelle plume pourra jamais les rendre? Quel pinceau pourra jamais en rappeler le hideux caractère? C'est là un de ces lugubres épisodes sur lesquels passent les années sans en affaiblir le moindre détail. Et jusqu'à présent, nous seuls avons pu donner des documents exacts et précis sur ce peuple ombayen, contre lequel la civilisation devrait armer quelques vaisseaux afin d'en effacer tout vestige. On ne voit jamais bien lorsqu'on ne voit qu'avec les yeux, et tant de choses échappent à celui qui est sans émotion en présent des tableaux sombres ou riants qui se déroulent devant lui. Pour bien voir, il faut sentir. Petit, placé à mon côté, ne riait plus, ne mâchait plus son tabac, mais il lançait toujours ses colibets, et stupéfait, il me dit à voix basse, « Quel gabier que ces gaillards !» Vial, Levesque et Barthes plieront bagage devant eux. Où diable ont-ils donc appris à se taper et à faire le moulinet? Ce doivent être les bâtonnistes de l'endroit. Je parie que d'un seul coup de leur briquet, ils couperaient un homme en quatre. Vous avez été bien inspiré de leur faire des tours d'escamotage. Sans ça, nous étions frits comme des goujons. Quant aux insulaires, ils se sentaient fiers de notre surprise, ou plutôt de notre erreur. Et en ce moment, je crois qu'ils auraient vraiment trop beau jeu à nous chercher noises, ce qu'ils se proposèrent pour le lendemain. Le sol sur lequel s'exécuta ce terrible combat était bordé de fosses assez profondes et de plusieurs monticules recouverts de galets, symétriquement posés et protégés encore par une double couche de feuilles de palmier. C'était le cimetière de Bitoka. J'avais remarqué que les naturels s'étaient souvent détournés pour ne pas fouler aux pieds cette demeure des morts. Nous avions suivi leur exemple, ils s'étaient montrés sensibles à cet hommage de pieuse vénération. Que de contraste dans le cœur humain! Jamais hommes ne furent mieux taillés pour les guerres, même parmi les nations féroces qui ne vivent que de rapines et de meurtres, car ils ont l'agilité de la panthère, la souplesse du reptile, l'astuce de l'hyène et un courage à l'épreuve des tortures. Les Ombayens sont de la race des Malais, mais on dirait une race pure et privilégiée, une nature primitive, une émigration d'hommes puissants et forts, qui doivent peut-être aussi cette supériorité si tranchée au caractère du sol abrupt où ils sont venus s'établir en maîtres. Ils ont le front développé, les yeux vifs, pénétrants, le nez un peu aplati, quoique plusieurs l'aient aquilin, le teint ocre rouge, les lèvres grosses, la bouche grande, accentuée, et chez aucun je n'ai trouvé la détestable habitude du bétel et de la chaux si fort en usage chez leurs voisins. Leur abdomen a le volume voulu, sans être prononcé comme celui de presque tous les insulaires de ces contrées, et la vigueur de leurs bras se dessine par des muscles en saillie admirablement articulés. Tous les naturels d'Ombay, même les enfants de 5 à 6 ans, étaient armés d'arcs et de flèches. La plus grande partie portait le terrible cric, dont la poignée, le fourreau, était paré de touffes de cheveux. Les arcs sont en bambou, la corde est un intestin de quadrupède.
Nous avions peine à tendre à moitié ses arcs, dont les bambins de 8 ans se servaient avec une extrême facilité. Et ce n'est pas chez les plus jeunes individus du village que nous trouvâmes moins d'hostilité. C'était à qui d'entre eux se montrerait plus imprudent dans ses demandes et plus irrité de nos refus. Il n'y a pas encore à espérer que la race des Ombaïens s'améliore. Les flèches sont en roseau de la grosseur de l'index, sans peine, armées d'os ou de fer dentelé. L'œil ne peut pas les suivre jusqu'au bout de leur course, et un cuir de 2 pouces d'épaisseur ne serait pas une assez solide cuirasse contre leur atteinte. Le bouclier sur lequel le guerrier ombaïen se met à l'abri des coups de ses adversaires est taillé comme les plus gracieux boucliers grecs et romains. Il se passe au bras gauche de la même manière. Il est étourné de débris de chevelure, de coquillages éclatants appelés porcelaine, de feuilles sèches de palmiste et de petits grelots dont le tintement anime peut-être les combattants. La cuirasse est un plastron également en peau de buffle qui part des clavicules et descend jusqu'au bas-ventre. Une large courroie la retient sur les épaules et supporte aussi une cuirasse à peu près pareille, qui garantit le dos et le derrière de la tête. Je ne peux mieux comparer cette armure qu'aux chasubles de nos prêtres, mais un peu moins longue. Les coquillages et les ornements sont placés avec goût et forment des dessins bizarres, pleins d'élégance et d'originalité. C'est chose admirable en vérité, qu'un ombaïen revêtu de sa cuirasse, armé de son arc, la poitrine parée de ses flèches meurtrières, placée en éventail et se préparant au combat. Leurs cheveux tombent, flottant sur les épaules. Quelques-uns en ont une si prodigieuse quantité que leur tête en devient monstrueuse, mais la plupart les relèvent à l'aide d'un bâton de 6 lignes de diamètre, les tressent avec une lanière de peau et placent au sommet quelques plumes de coque ondoyantes comme d'élégants panaches. Ils ont un goût très prononcé pour les ornements. Leurs oreilles supportent des pendants en os, en pierre ou en coquillage. Leurs bras et leurs jambes sont surchargés de cercles, dont plusieurs en or, et des bracelets d'os et de feuilles de bakwa. Nos observations une fois achevées et notre provision d'eau à bord, nous nous dirigeâmes avec plus de précipitation qu'auparavant vers le rivage. Mais c'était là surtout que les difficultés du départ s'offrirent à nous d'une façon menaçante. Les insulaires cherchaient encore à nous retenir en nous assurant de leur protection pendant la nuit. Mais, plus habiles qu'eux, nous leur fîmes entendre que nous reviendrions le lendemain avec une grande quantité de curiosité et que, pour les remercier de la généreuse hospitalité qu'ils nous avaient accordée, nous leur apporterions des haches, des scies et plusieurs beaux vêtements. Sur la foi de ces trompeuses promesses, mais non sans s'être longtemps concertés entre eux, ils nous permirent de reprendre la mer. Dans leurs perfides regards, nous vîmes de nouvelles menaces. Dans leurs adieux, le sentiment de la haute faveur dont ils nous honoraient. Et bien certainement, nul de nous n'aurait rejoint le navire si nous ne leur avions donné pour le lendemain l'espoir d'un plus riche butin et d'un carnage plus facile. La nuit était sombre mais calme. Nous courûmes au large, guidés par les amorces que la corvette brûlait de temps à autre, et nous y arrivâmes à 1 heure du matin, heureux d'avoir échappé à un danger si imminent, d'avoir visité le peuple le plus curieux de la terre. Et cependant, nous ne savions pas encore la grandeur du danger auquel nous venions si miraculeusement d'échapper. Nous apprîmes le lendemain par un baleinier, retenu comme nous dans le détroit, que 15 hommes qui montaient une chaloupe anglaise, descendus à Ombay pour faire du bois, avaient été horriblement massacrés et dévorés quelques jours avant notre descente à Bitoka. Qu'à une petite lieue de cette peuplade, les débris de cet épouvantable repas gisaient sur le rivage. Que nul Européen débarqué à Ombay n'avait encore échappé à la férocité de ses habitants. Qu'ils se font la guerre de village en village, boivent le sang dans le crâne des ennemis vaincus, et que c'était par une faveur spéciale du ciel qu'un retour nous avait été permis. Qu'on dise après cela que la science des Comus, des Comtes, des Balbes, des Bosco est une science stérile. Sans mes tours de gobelet, je ne vous aurais pas parlé aujourd'hui d'Ombay et de ses anthropophages habitants.